Le chantier est déjà bien avancé. C'est ici, devant le Capitole, que Joe Biden sera assermenté le 20 janvier à midi.
Oui, on voit les tribunes là qui ont commencé à être érigées. Je ne sais pas si vous entendez les coups de marteau. C'est juste devant la coupole et devant ce grand mall qui peut théoriquement accueillir une foule immense.
Et d'ailleurs, les élus républicains doivent entendre ces coups de marteau depuis le Congrès. Mais alors avant l'investiture, il va y avoir Noël et il y a un magnifique sapin de Noël qui brille mille feux juste devant la scène qui est en train d'être
décoré,
installée.
Ouais.
Et c'est donc devant ce magnifique édifice qui abrite le Congrès et devant aussi, c'est vrai, ce super sapin que nous avons choisi de nous réunir en cette journée ensoleillée, mais plutôt froide, de décembre pour parler de ce qui attend les États-Unis d'ici un mois et demi. Depuis notre dernier épisode, la transition a été officiellement lancée. Tu nous en parlais, Raphaël, justement.
Oui, avec cette fameuse Emily Murphy, la directrice des services généraux de l'administration américaine. Alors, elle a finalement signé le document pour débloquer le processus de transition. Une lettre adressée, je ne sais pas si vous avez noté, mais adressée à Monsieur Biden et non au président élu Biden comme l'aurait voulu le protocole. Donc Emily Murphy qui a donc finalement permis à la procédure de s'enclencher et l'équipe Biden cette semaine pour la première fois a eu accès au briefing quotidien du président, ce document top secret rédigé par les services de renseignement américains.
Et d'ailleurs, Joe Biden l'a reçu, ce briefing, depuis chez lui à Wilmington, en portant une botte orthopédique, puisque quelques jours auparavant, il s'est blessé en jouant avec son chien. Donc voilà, ça faisait un peu canard boiteux pour ce premier briefing présidentiel.
Et pendant ce temps, le président sortant, Donald Trump, lui, refuse toujours de reconnaître la victoire de Joe Biden et donc sa défaite. Est-ce que lui et ses proches seront ici le 20 janvier pour la sermentation, comme le veut la tradition? En tout cas, chose certaine, en contexte de pandémie, cette cérémonie s'annonce bien différente de ce à quoi on a pu assister ces dernières années. Pour en parler avec moi aujourd'hui, il y a
Anne Corpet de RFI,
Sonia Dridi, RTBF,
Raphaël Grand de la Radio-Télévision Suisse
et Raphaël Bouvier-Auclair de Radio-Canada. Et nous allons parler un peu plus tard à Grégory Phillips de France Info qui se trouve sous les palmiers d'Hawaï.
Hein, pas mal, il a mis sa chemise, il nous l'a dit tout à l'heure.
Une transition pas comme les autres, c'est l'épisode 30, et oui, 30 déjà, de Washington D.C., le podcast balado des radios francophones publiques.
They want to destroy you and they want to destroy our country.
Our politics has become so mean, so petty, so negative, so partisan, so angry, and so unproductive.
Washington, D.C.
This election was rigged. Everybody knows it.
Help is on the way.
C'est donc sur cette scène, qui est toujours à l'état de chantier, que Kamala Harris et Joe Biden prêteront serment. Ils deviendront vice-présidente et président des États-Unis. Sonia, tu étais ici, toi, en 2017. Tu as assisté à la cérémonie d'investiture de Trump. Comment ça s'est passé? Obama était là, déjà.
Alors, j'étais installée avec d'autres journalistes dans le carré VIP, où il y avait... voilà, c'était assez sympa. Où il y avait les invités du clan Trump triés sur le volet, où il y aura cette année les invités du clan Biden. Il fallait juste lever la tête pour voir la tribune présidentielle où Donald Trump a en effet prêté serment. Et alors, pour voir les visages de Barack Obama et Michelle Obama, il suffisait de regarder sur l'écran géant où il y avait des gros plans. On a notamment vu le visage très fermé de Michelle Obama, mais les Obama étaient présents, malgré le fait qu'on le sait, ils n'étaient pas ravis d'être là. Par contre, la cérémonie a été boycottée par des élus démocrates et on imagine que ce sera sûrement cette année le cas côté républicain.
Et peut-être même que cette année, Donald Trump lui-même boycottera la cérémonie parce qu'on sait qu'il refuse toujours de reconnaître le résultat des élections, même si la plupart des États-clés, Georgie, Arizona, Wisconsin, ont certifié la victoire de Biden sur leur territoire.
Oui, c'est vrai que Trump n'a pas changé de disque depuis plusieurs semaines. Il y a quand même cette séquence étonnante, vous l'avez sans doute vu, c'était à Thanksgiving, un Donald Trump attablé devant cette minuscule
Elle
table.
Elle n'était pas très grande, cette table.
C'était assez spécial, le décorum était assez étrange. Mais il a répondu, et ça c'est assez rare, il a répondu aux journalistes, ce qui ne fait plus vraiment hein, Donald Trump ces derniers temps. Et une journaliste lui demande, est-ce que vous serez présent pour l'inauguration? Oui, je connais la réponse. Mais je ne vais pas vous la dire maintenant.
Suspense.
Suspense, exactement. Et ce jour-là, Trump a quand même dit néanmoins qu'il quittera la Maison-Blanche si les grands électeurs confirment la victoire de Joe Biden. Et ça, ce sera le 14 décembre.
Certainly I will. And you know that.
Mais en fait, Trump pourrait choisir d'annoncer sa candidature pour 2024 le jour de l'investiture, quand Joe Biden sera ici devant le Congrès pour l'inauguration. J'en parlais avec un journaliste de NBC, à nos enfants qui jouent au football ensemble, et depuis plusieurs jours, NBC tentait de confirmer cette rumeur, et aujourd'hui plusieurs médias américains reprennent cette information. Trump pourrait annoncer sa candidature le jour de l'inauguration de Biden.
Oui, et sa manière de continuer à tweeter frénétiquement sur les fraudes électorales, c'est une façon de conserver la main sur son électorat et aussi de lever de l'argent. Hein. Il a créé un fonds de défense des élections. Vous aussi, vous devez recevoir ces dizaines de SMS, de e-mails vous appelant à verser des sous.
C'est quotidien.
Ouais. Hein. Ouais, c'est... Et ben, il a déjà amassé 170 millions de dollars en moins d'un mois. C'est énorme. Et selon le New York Times, 75% de cette somme a en réalité été affectée à un nouveau PAC. Vous savez, ces comités de soutien politique appelés Save America, Sauver l'Amérique, ce qui lui permettra de financer des actions politiques futures et donc d'éventuels voyages ou meetings électoraux.
Donc, s'il pense à l'avenir, c'est qu'il sait au fond, Sonia, Donald Trump, qu'il a perdu l'élection, non ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, un conseiller de Trump a confié il y a quelques jours à un journaliste de CNN que le président avait bien conscience qu'il avait été battu. Il y a aussi un très bon article du Washington Post qui explique en fait la période des 20 jours entre l'annonce de la victoire de Joe Biden et le jour où Trump a enfin accepté que la transition se mette en marche. Au départ, Donald Trump n'arrêtait pas de répéter furieux « j'ai gagné, j'ai gagné ». Il a d'ailleurs décidé de s'entourer vraiment des proches et des conseillers qui allaient dans son sens, qui l'encourageaient même à engager une poursuite judiciaire. Un conseiller confie que beaucoup, finalement, à la Maison-Blanche disaient « bon, chut, faut pas trop lui dire qu'il a perdu ». Et aujourd'hui, Trump sait bien qu'il a perdu, mais c'est important pour lui de ne pas perdre la face. Et il va sûrement quitter la Maison-Blanche en disant « j'ai gagné ». Et d'ailleurs, c'est plus ou moins ce qu'il a confié à Fox News.
It's not like you're going to change my mind. In other words, my mind will not change in six months. There was tremendous cheating here. Boxes were brought in.
Voilà, il dit mon opinion n'aura pas changé dans six mois.
On sent qu'il a quand même fallu quelques semaines pour percer cette bulle de protection hein, qu'il y a autour de Donald Trump pour qu'enfin il voie la réalité en face d'une certaine manière.
Et d'ailleurs, cette semaine par exemple, il y a Bill Barr quand même qui a été un fidèle allié de Donald Trump, le secrétaire à la justice, qui a dit ne pas avoir vu de preuves de fraude massive qui aurait permis de changer le résultat des élections. Alors c'est pas rien quand ce genre de déclaration vient d'un allié quand même assez proche du président. On parlait tout à l'heure des ambitions futures de Donald Trump 2024, mais il peut déjà s'impliquer politiquement en ce moment parce qu'il y a deux courses sénatoriales en Géorgie et elles sont très importantes parce qu'elles détermineront de l'avenir du contrôle du Sénat. Raphaël, tu nous quittais à la fin du dernier épisode pour te rendre dans la région d'Atlanta, justement. Comment ça se passe sur le terrain?
Ben, en fait, la Géorgie, c'est un peu le dernier champ de bataille de cette campagne présidentielle. La campagne n'est évidemment pas terminée et vous en doutez, tous les poids lourds de la politique vont y aller en Géorgie. On parle de Trump, on parle de Biden.
Samedi.
Exactement. Trump, ce sera normalement samedi. Biden devrait y aller, peut-être Obama. Moi, quand j'y étais à Atlanta, il y avait Mike Pence qui était présent pour soutenir les deux sénateurs républicains. Donc Mike Pence qui était venu soutenir David Perdue et Kelly Loeffler, les deux sénateurs républicains de Géorgie, qui est revenu sur le fait que cette élection avait été volée, que c'était une fraude. En fait, quand vous parlez aux supporters de Donald Trump, beaucoup croient encore que Donald Trump, le 21 janvier, il sera toujours à la Maison-Blanche, d'une manière ou d'une autre, via la Cour suprême ou via le vote des grands électeurs. Et j'ai parlé avec Kim, qui avait sa casquette rouge « Make America Great Again », et elle ne veut pas que Trump concède. Elle pense sincèrement qu'il restera à la Maison-Blanche. Elle me dit « Joe Biden ne sera jamais son président ».
But I'll never support Biden. He will not be my president.
C'est vraiment intéressant parce que d'un côté, on dit que l'élection présidentielle a été truquée, qu'il y a eu de la fraude, mais de l'autre, on demande aux partisans républicains d'aller voter, puis on leur dit que c'est important. Il n'y a pas une contradiction. Est-ce que ça peut pas avoir un impact sur le vote républicain?
Alors, c'est la question et c'est tout le paradoxe. D'un côté, les supporters de Trump dénoncent des fraudes, mais sont prêts à aller voter. Tous m'ont dit qu'ils seront là le 5 janvier, hein, c'est le vote en Géorgie. Ils savent que la majorité du Sénat en dépend. Mike Pence le rappelait, la Géorgie, c'est le dernier rempart face à la montée du socialisme, hein, le communisme, la gauche radicale. Donc les gens ont compris l'enjeu et ils iront quand même voter pour cette élection au Sénat.
Et il y a un contexte qui est particulier à la Géorgie aussi, Anne, c'est ces tensions au sein même du Parti républicain.
Ben oui, les deux sénateurs républicains ont demandé la démission du secrétaire d'État de la Géorgie,
chargé qui est lui-même républicain,
oui, et qui est chargé du processus électoral. Alors évidemment, il a refusé et il est depuis menacé. Il a reçu des menaces de mort. Sa femme a reçu des textos de menaces à connotation sexuelle. Et en fait, pas mal de gens de l'équipe chargée du processus électoral ont reçu de telles menaces à tel point qu'hier, l'un d'entre eux, Gabriel Sterling, a tenu un point de presse et d'une voix vibrante de colère, il a énuméré ses menaces.
Is stop inspiring people to commit potential acts of violence. Someone's going to get hurt, someone's going to get shot, someone's going to get killed.
Cela va trop loin, cela doit cesser. Si cela continue, quelqu'un va se faire tirer dessus, a-t-il tonné avant d'appeler le président et les élus républicains à condamner publiquement de tels agissements.
Donc, ça bouge beaucoup sur le plan politique en cette fin de mandat Trump. Il y a aussi de l'action sur le plan judiciaire. Michael Flynn, un ancien conseiller qui avait menti au FBI, a été gracié par le président. Et d'ici la fin janvier, il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient recevoir un pardon présidentiel. Ça se discute, en tout cas.
Et c'est une tradition, hein. Le président le fait souvent à la fin de son mandat.
Oui, tout à fait. Et selon le New York Times, la Maison-Blanche aurait demandé à ses conseillers s'il serait possible d'accorder une grâce présidentielle par anticipation.
Donc, avant qu'il y ait des accusations
tout
ou encore
à fait.
Même des crimes.
Voilà, pour Rudy Giuliani, notamment, hein, cet avocat de Donald Trump qui doit s'inquiéter. Et aussi, ça a étonné davantage les observateurs, pour les trois enfants de Donald Trump.
Et pour Jared Kushner, le mari d'Ivanka.
Tout à fait.
Et Trump pourrait même se pardonner à lui-même. Là, on entrerait dans une zone un peu sombre de la Constitution américaine. Et puis, un nom qui revient très souvent, celui de Tiger King, vous vous rappelez ?
Ah bah moi je me souviens de la série Netflix qui a fait un tabac.
Ouais, on a beaucoup parlé de lui sur les réseaux sociaux.
Exactement, Joe Exotic, propriétaire d'un zoo en Oklahoma, grand fan de Donald Trump, qui a écopé de 22 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat d'une activiste et aussi pour maltraitance et trafic d'animaux, notamment des tigres. Et les avocats de Joe Exotic disent être proches d'avoir obtenu un pardon présidentiel également.
Joe Exotic for governor.com and let's fix this.
Nous sommes toujours devant le Capitole, où c'est très venteux. Je ne sais pas s'il y aura autant de vent le jour de la sermentation de Joe Biden. Et on verra aussi qui seront les gens autour de lui. Déjà, on a commencé à former l'équipe. On avait évoqué quelques noms lors du dernier épisode. On ne s'est pas trompé dans certains cas.
Oui, notamment Tony Blinken, hein, qui devient le secrétaire d'État de Joe Biden. Alors, on avait dit qu'il serait peut-être secrétaire d'État ou conseiller à la sécurité nationale.
C'est pas très loin.
Ouais, c'est pas très loin. C'est surtout un grand fidèle de Joe Biden, hein, depuis les années 90, francophile, francophone. Il a passé notamment son bac en France. Et son beau-père était notamment Samuel Pizarre, qui est un survivant de la Shoah.
Rapidement, Karine Jean-Pierre, qui sera au sein de la communication de la Maison-Blanche, exactement, oui. Qui fait partie de ce groupe 100% féminin, qui va gérer justement tout ce qui est communication dans la Maison-Blanche de Biden.
Oui, et cette semaine, Joe Biden a aussi présenté son équipe chargée de l'économie. Là aussi, les minorités et les femmes très représentées, avec notamment Janet Yellen, hein, qui sera la première femme à occuper le poste de secrétaire au Trésor. Et puis, comme adjoint, elle aura Wally Adeyemo, d'origine nigériane. Il sera le premier secrétaire adjoint au Trésor afro-américain.
Et on remarque quand même que Joe Biden a surtout nommé des démocrates de l'establishment, pour la plupart des centristes. On sait par exemple que Elizabeth Warren voulait le Trésor, et une source proche de l'équipe de transition donc de Joe Biden m'a dit qu'en fait Joe Biden n'avait pas envie de se battre pour Warren ou alors Sanders, qui on le sait veut le secrétariat au travail, parce que ça sera difficile sûrement de faire accepter leur nomination au Sénat.
Pour une nouvelle administration, habituellement, la sermentation, évidemment, c'est un moment qui est festif. On célèbre, on souligne un changement. Mais compte tenu de la pandémie de COVID-19 cette année, il faut s'attendre quand même à un scénario assez différent le 20 janvier.
Oui, avec une cérémonie sans doute sur le modèle de ce qu'a fait Biden durant la campagne. Hein. Très peu de monde, peut-être un mélange de visioconférence et de présence physique. Pour être invité sur l'estrade qui est juste derrière nous, là, qui est en train d'être construite, il faudra être a priori un juge de la Cour suprême ou un membre du Congrès. C'est pas
Sonia,
certain que Sonia, tout soit dans le carré cette année.
Et surtout, ouais, il y aura moins d'invités, de proches des...
Et puis derrière nous, le mall, donc ce grand espace de verdure où normalement le public vient, là aussi il y a des questions en suspens. Est-ce qu'il faudra accepter qu'il y ait des milliers de personnes qui viennent voir cette cérémonie? Là aussi c'est compliqué. L'investiture, c'est un moment important pour le nouveau président, mais ce sera un événement qui sera a priori très différent de ce que l'on connaît habituellement.
Et tout ça, évidemment, c'est parce que cette crise de la COVID-19, qui sera d'ailleurs l'un des grands dossiers qui va occuper le début de la présidence Biden, ne perd pas de vigueur aux États-Unis. On a vu ces dernières semaines une hausse importante des cas d'infection, des hospitalisations et des décès aussi. Dans les 24 heures qui ont précédé l'enregistrement de cet épisode, près de 2600 décès aux États-Unis. On l'a vu donc dans plusieurs régions des États-Unis, le Midwest, les plaines. Anne, toi et moi, on est allés récemment au Dakota du Nord, justement dans les plaines, et là-bas, la situation, elle était assez inquiétante lors de notre passage.
Oui, c'est un état dépeuplé à la frontière avec ton cher Canada. Il faut imaginer un vent glacé cinglé sur des étendues désertes. Hein.
Quoi qu'on ait servi en termes de vent aujourd'hui.
Pas une ambiance très folichonne, hein, surtout que dans cet état, une personne sur 10 au moins est infectée par le Covid.
Et dans certaines régions, c'est encore davantage.
Selon une étude de Harvard, le taux de mortalité est le plus élevé au monde dans cet état, plus d'un décès pour 1000 habitants. Alors évidemment, on a rencontré des médecins, des infirmières épuisées. Écoutez, David Field, il est docteur à l'hôpital Sanford de Bismarck, la capitale.
It's been, you know, a number of months for us. It's really been, you know, every day.
Ça fait des mois que ça dure, c'est tous les jours, dit le Dr Field, qui nous a raconté d'ailleurs que certains membres du personnel craquaient nerveusement, que des infirmières avaient été infectées, et il explique, quand vous portez le masque toute la journée, que vous avez ces marques sur le visage, que vous faites ça pendant une longue période, et ben ça pèse sur vous, et il ajoute, c'est dur.
It's tough.
Et il faut dire qu'au Dakota du Nord, les gens ont continué pendant des mois de se rassembler dans les bars, dans les petites églises des villages. Il a fallu du temps, en fait, avant que le gouverneur républicain impose certaines mesures restrictives, notamment le port du masque. Et encore aujourd'hui, on voit qu'il y a une certaine résistance, en tout cas d'une partie de la population à ces mesures.
Oui, le gouverneur a attendu le 13 novembre pour imposer le port du masque, mais il est loin d'être généralisé. Tu te rappelles, dans notre hôtel, on croisait régulièrement des familles qui ne portaient pas le masque. Pourtant, il y avait bien un écriteau à l'entrée, mais le personnel ne rappelait personne à l'ordre. C'est notre droit constitutionnel, m'a lancé une femme à qui je demandais pourquoi elle ne se pliait pas à la consigne. Et puis, dans la campagne, à une station-service, on a rencontré Dave, qui mettait carrément en doute les données sur les décès dus au virus.
We're being fed false information with the numbers that are being put out. You know, is it COVID that caused the death or is it the cancer that caused the death?
On nous abreuve de fausses informations. Est-ce que ces gens sont morts à cause du Covid ou du cancer? Interroge Dave et il ajoute, les médias veulent que nous ayons peur. J'ai pas besoin que le gouverneur me dise ce que j'ai à faire. J'en ai marre de cette stratégie de la peur. Et il conclut, je vis en Amérique, le pays de la liberté et des braves.
Et dans ce pays des libertés, les stratégies sont bien différentes d'une région à l'autre. Vous l'avez probablement remarqué aussi pendant vos couvertures au cours de l'élection. Les politiques mises en place diffèrent selon la région dans laquelle on se trouve. On vient de vous parler du Dakota du Nord, donc on va aller dans une autre région bien plus loin où la stratégie sanitaire est totalement différente. On va appeler Grégory qui est à Hawaï en ce moment.
Allô?
Allô Grégory?
Est-ce que vous m'entendez?
Ouais toi?
Pas les ukulélés.
Aloha, comme on dit ici, bonjour.
Alors, Grégory, on va le dire d'entrée de jeu, tu profites d'une période de vacances bien méritée sous les palmiers, le soleil d'Hawaï. Tu as constaté que c'est quand même un État qui impose plusieurs mesures de restriction en lien avec la pandémie.
Oui, par exemple, sur l'île de Kauai, où je me trouve actuellement, depuis le 1er décembre, les visiteurs qui débarquent à Kauai sont obligés de passer par une quatorzaine, c'est-à-dire que les autorités vont les installer dans des hôtels qu'ils ont baptisés des « bubble resorts », des hôtels bulles, où ces voyageurs passeront 14 jours obligatoirement, avec même parfois un bracelet électronique au poignet pour être localisé. Ça, c'est la mesure la plus drastique. Dans les autres îles, on peut échapper à cette quatorzaine, mais il faut arriver avec un test négatif Covid. Évidemment, les autorités d'Hawaï, puisqu'on est ici sur des îles, sont extrêmement prudentes quant à l'arrivée de voyageurs qui pourraient propager le virus.
Et est-ce que ça marche? C'est quoi la situation à Hawaï en ce moment par rapport à la Covid?
Alors, clairement, ça marche. On est dans l'un des États américains les moins touchés par l'épidémie. Sur Kauai, par exemple, 18 cas seulement depuis le début de l'épidémie pour une île d'environ 70 000 habitants. Et si on prend la globalité de l'État d'Hawaï, c'est-à-dire toutes les îles, on a 18 000 cas. Environ 240 morts, aujourd'hui une cinquantaine de personnes encore hospitalisées, principalement dans la région d'Honolulu, qui est une région très touristique, mais tu vois, Raphaël, qu'on est sur des courbes beaucoup moins importantes que dans le reste des États-Unis.
En fait, Hawaï, c'est un peu le bon élève des États américains.
Oui, avec des mesures extrêmement drastiques, comme je viens de le dire. Il faut préciser que, évidemment, les autorités ici sont démocrates. À la présidentielle, les Hawaïens ont voté à plus de 63% pour Joe Biden. Et puis, une parenthèse, vous savez, Hawaï, c'est aussi l'île des Obama qui ont une maison vers Honolulu, mais je ne les ai pas croisés pour l'instant.
On est déçus. En tout cas, on entend les oiseaux derrière Greg, c'est sympa.
On te souhaite une bonne fin de vacances, bon retour ici à Washington, où il fait beau, il fait soleil, mais je t'avertis, c'est assez venteux. On l'a constaté dans l'enregistrement de cet épisode.
Comment on dit au revoir en hawaïen?
Oh, ah, c'est pas, mais merci en hawaïen, c'est mahalo.
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 Avec autant de politiques différentes, on vient d'avoir deux bons exemples. Le portrait demeure donc peu encourageant à l'échelle du pays. Il y a de l'espoir à l'horizon avec l'arrivée de vaccins. Si les approbations sont données par le gouvernement, eh bien les personnes les plus vulnérables pourraient recevoir des premières doses ce mois-ci, avant la fin de l'année. Les autorités de santé publique s'attendent néanmoins à un hiver sombre.
Oui, d'ailleurs, Joe Biden n'arrête pas de répéter cette expression « un dark winter, un hiver sombre attend l'Amérique ».
Et d'ailleurs, on constate un pic de cas de coronavirus ici, dans la capitale, à Washington.
Alors samedi que tout le monde porte le masque ici. Hein.
Oui, oui, les gens sont assez sérieux, mais samedi dernier, il y a eu 371 nouveaux cas. C'est le plus haut taux enregistré depuis le début de la pandémie. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, la maire de DC a annoncé de nouvelles restrictions, notamment dans les restaurants où ils pourront recevoir moins de clients. Et notamment après le congé de Thanksgiving, hein, où les Américains ont voyagé partout dans le pays, eh bien, les mesures vont perdurer à Washington.
Oui, parce qu'on n'a toujours pas vu l'impact de ces vacances, de l'Action de grâce, la Thanksgiving. Beaucoup, beaucoup de gens se sont déplacés.
Oui, les autorités craignent justement cet impact de Thanksgiving. On a quelques chiffres. 9 millions de personnes ont transité par les aéroports durant Thanksgiving. C'est le plus haut nombre de voyageurs depuis la pandémie. Et puis, le nombre d'infections aussi, qui est de 100 000 par jour aux États-Unis. Et c'est comme ça depuis près d'un mois. Ça laisse présager effectivement un hiver sombre, c'est le terme consacré.
Et Deborah Birx, médecin à la cellule de crise de la Maison-Blanche, a prévenu les Américains qui avaient voyagé. Vous avez probablement été en contact avec le Covid, vous devez vous faire dépister, a-t-elle dit en début de semaine.
C'est donc dans ce contexte, on va le dire, peu réjouissant que va se dérouler cette assermentation du prochain président américain, Joe Biden. D'ici là, cette transition dont on vous a parlé aujourd'hui se poursuit. On l'évoquait, il y aura ces élections très importantes en Géorgie. L'équipe de Washington DC sera là, bien sûr, pour vous accompagner au cours des prochaines semaines. D'ici le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur notre fil Twitter. On vous dit à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Washington DC avec
Anne Corpet, RFI,
Raphaël Grand, Radio-Télévision Suisse,
Sonia Dridi, RTBF,
Grégory Phillips, France Info,
Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada.
Réalisé par
Sandro Lichy.
Bon, j'osais pas le dire, mais avec le vent qu'il y a aujourd'hui à Washington, en étant juste à côté du Congrès ici, ça brasse de l'air. Hein.
Les promesses de relance économique que font les élus en ce moment, c'est du vent.
Bon, en tout cas, Joe Biden a le vent en poupe.
Un nouveau souffle va bientôt arriver sur Washington.
C'était facile.
Bon, on est en forme.
C'est facile.
Hein.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà.